non, parce que je suis née en Argentine et à Buenos Aires, je fréquentais beaucoup des ciné-clubs et la cinémathèque. Et là, j'avais vu énormément de films d'Abel Gance. Mais je peux même aller dans un flashback beaucoup plus loin dans le temps. J'avais 5, 6, 7 ans. Vraiment, j'étais très, très, très petite. Et ma mère, pour se, un peu, j'étais très turbulente, pour se débarrasser de moi pendant toutes les après-midi, m'envoyait très souvent avec mon frère voir des films. Et j'étais fascinée, terrorisée, ça m'avait terriblement marquée. Il y avait un film où on voyait des morts de la guerre se réveiller et revenir pour demander des comptes aux vivants. Et bon, j'ai appris beaucoup plus tard que je venais de voir J'accuse, mais non, la version sonore. Mais ce qui est très étrange, c'est que les surréalistes appelleraient le hasard objectif, c'est que quand j'ai travaillé avec Gans, il m'a demandé de monter en polyvision les J'accuse sonores, c'est-à-dire que j'ai monté sur 3 écrans les films qui avaient complètement marqué mon enfance. Obsessions qui courent en filigrane et qui sont absolument gansiennes. Et effectivement, je pense que ça met, d'abord, il avait acquis une maîtrise technique et artistique très très puissante en 1938. Et le fait qu'il avait obtenu des gueules cassées de la guerre de 14-18, de jouer les morts qui reviennent de la guerre 38, c'était quand même une idée formidable. Et en même temps, je vous dis, je dirais pas l'horreur, plutôt la terreur.
Oui. Comment ça s'est passé donc votre travail avec Abel Gance? Vous avez commencé à travailler avec lui déjà sur La Tour de Nesle ou simplement à partir de Magirama?
Sur La Tour de Nesle, il m'avait permis de suivre le tournage. Je l'avais rencontré déjà quelques mois auparavant. J'avais même un tout petit rôle avec Pierre Brasseur. Donc c'est la première fois que j'entrais vraiment sur un plateau. C'est là où j'ai tout, la réalité rugueuse, comme on dirait Rambo, du cinéma, je l'ai connu à La Tour de Nesle. Et ensuite, c'est vraiment avec les Magirama que moi-même, j'ai mis la main à la pâte.
Alors, comment l'idée de Magirama a germé et qu'est-ce que c'était que Magirama? Parce que c'est un des films de Gans qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est le seul, peut-être, avec Jérôme Perrault, que je n'ai pas vu.
Bon, le Magirama, c'était une série de documentaires, de courts-métrages réalisés en polyvision. C'est-à-dire qu'on revenait à l'idée gansienne des 3 écrans et de la polyvision. Il y avait plusieurs courts-métrages. L'un s'appelait Château des nuages. C'était à partir beaucoup des films des nuages en mouvement, on crée des architectures mouvantes en jouant sur le fait que c'était autrefois la même image ou 3 fois des images inversées. Enfin, on crée une sorte de symphonie visuelle. Ensuite, on avait demandé à McLaren qu'il nous prête, qu'il nous donne un de ses petits films qui s'appelait Big Handle Care, qu'on avait aussi polyvisé. On avait fait une fête foraine en polyvision avec tout ce que cela comporte, bien avant le cinérama et tout le reste, tous les effets qu'on peut obtenir de la polyvision d'une fête foraine. On avait fait un petit film qui s'appelait Auprès de ma blonde, qui était déjà un début de publicité détournée. C'est-à-dire qu'on était allé voir les usines Renault, la régie Renault, et on lui avait raconté qu'on voulait faire un film avec un marchand de rêves qui était joué par Michel Bouquet, et ce marchand de rêves avait une petite voiture qui était la 4 chevaux, qui était capable de tout faire. Donc à partir de là, c'était une voiture avec des trucages qui montait à la tour Eiffel, qui traversait la Seine, etc. Et c'était un film très très charmant dont personne ne pouvait savoir qu'au fond c'était un film publicitaire, car c'était très très loin de tout ce qu'on peut voir actuellement dans les entr'actes au cinéma. Et puis la grande version polyvisée des J'accuse sonores, c'est-à-dire que surtout on a pris toutes les séquences de Réveil des morts, etc. Alors en polyvision, déjà vous êtes terrifiés quand vous voyez un seul mort venir sur vous, imaginez quand ça vient en polyvision. Et moi-même qui montais les films, c'était... On nous avait donné, parce que tout ça a été fait avec des bouts de ficelle, c'était la charité considérée comme un des beaux-arts ou comme un des 7e arts. Donc, On nous avait donné un hangar épouvantable battu par le vent au deuxième ou troisième étage des GTC à Joinville. Et là, quand j'ai monté, j'accuse, à minuit, tout seul, etc., j'ai ressenti la même terreur moi-même que celle que j'avais ressentie quand j'avais 7-8 ans. Comme quoi, l'éternel retour nietzschéen tellement cher à Gans.
Ou du moins, essayer de faire passer auprès de l'auditeur l'idée de ce que peut être la polyvision pour quelqu'un qui n'a jamais vu de film en polyvision.
Oui, Gans lui disait que la polyvision correspond dans l'image à ce que la polyphonie correspond en musique. C'est-à-dire que le spectateur est capable de percevoir beaucoup plus qu'une image. Donc, c'est une manière, même comme le cubisme en peinture, d'essayer de gratouiller vers la quatrième dimension. Imaginez un film en polyvision, vous voyez en même temps sur l'image centrale deux personnages qui parlent, et à gauche et à droite, dans les écrans latéraux, c'est que chacun est en train de penser, qui n'est pas nécessairement ce qu'il est en train de dire. Enfin, je vous donne un exemple très très primaire, mais on peut... On s'aperçoit que Gans avait raison et très très tôt, car si vous voyez tous les comptes rendus, je ne suis pas allée, mais il y a des amis à moi qui vont tout raconter, dans l'exposition universelle de Séville il y a quelques mois, tout ce qui était présenté, c'était toujours beaucoup d'écrans, c'était la polyvision qui avait envahi complètement l'expression audiovisuelle. Simplement, son problème à lui, c'est qu'en 1925, il était un peu trop tôt et qu'il dérangeait. Jean Epstein disait de lui, Gans veut plus qu'il ne peut, mais il peut tout ce qu'il veut. Moi, je pense que quand il avait besoin d'un ces fantasmes visuels d'obtenir quelque chose, il disait comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Donc, à ce moment-là, il faisait appel à la technique. Je crois que sinon, il s'en foutait éperdument de la technique. Mais il trouvait inconcevable de ne pas obtenir ce qu'il voulait que ce soit vu sur l'écran. Bon, à partir de là, je pense qu'il embêtait tout le monde, juste obtenir ce qu'il voulait. Enfin, sa devise, il l'avait empruntée à Leonardo da Vinci, c'était ostinato rigore. Bon, il avait... un peu de rigueur et beaucoup d'obstination.
Il y a un petit peu la volonté d'être un peu le Léonard de Vinci du cinéma chez Gans, un petit peu.
Mais je ne pense pas que c'était une volonté, je pense que c'était plus fort que lui. Simplement, il voulait... c'était un visionnaire. Enfin, pour moi, c'était le plus grand visionnaire du 7e art. Maeterlinck a dit la même chose de lui. Et donc, c'était inconcevable de ne pas créer. En plus, comme il avait énormément de charme, énormément d'obstination, de pouvoir et de séduction, il est allé voir les chefs opérateurs, les techniciens, et il les passionnait. C'est-à-dire que les gens qui étaient habitués, et encore, quand vous voyez comment Napoléon était tourné par des documents d'époque qu'on a la chance d'avoir, ce qui me frappe, c'est la passion qui habitait tous ces techniciens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous tournez, et je le sais hélas moi-même, et souvent ils ne regardent que l'heure pour se dire, bon, à partir de quel moment on commence à avoir des heures supplémentaires. Donc l'amour du cinéma, l'amour de la création, qui je crois qui est en train de s'estomper beaucoup, sauf chez quelques fous qui heureusement encore existent, mais à cette époque-là, il tétanisait ses collaborateurs. C'était ou la haine ou la dévotion, mais quand c'était la dévotion, ça allait jusqu'au martyr.
Mais ça se sent parce que dans Napoléon, donc c'est vrai qu'il y a donc ce fameux discours qu'il a fait aux techniciens, déclaration donc qui est complètement de pulvérisation, c'est assez incroyable. Complètement napoléonien, on dirait qu'il est le chef d'armée et qu'il... bon, il y a un petit côté comme ça chez Gans, quand il tourne Napoléon, il est Napoléon, je trouve. En même temps, il joue Saint-Just, qui est la contradiction. Et en même temps, il a bénéficié probablement, ce qui a dû faire l'enthousiasme aussi des figurants. Je crois que la plupart des figurants de Napoléon étaient des grévistes de l'usine de Renault et qui étaient en grève juste à côté. Et il a donc demandé aux grévistes de Renault de venir jouer la foule, le peuple dans Napoléon. Et là, il y a quelque chose qui galvanise le film parce qu'il y a probablement quelque chose de cet enthousiasme d'une grève des années 20 qui passe dans la flamme de la Révolution quelque part.
Sans doute, je pense qu'en plus, les grévistes devaient s'ennuyer un peu, étaient ravis de toucher un cacheton, et en outre d'entrer dans le temple du cinéma, bon, c'est toute la foule de la création de la Marseillaise, tous les figurants, c'était des grévistes. Et qui étaient ravis aussi de chanter, d'hurler, parce qu'en plus, il leur a demandé de chanter chaque fois plus fort, 20 fois des suites, la Marseillaise. C'était absolument comme des écoliers dissipés en train de s'amuser comme des fous.
On pourrait revenir sur ces trois films-là, et notamment peut-être les circonstances de Vénus aveugle, parce que bon, moi j'adore Gans, mais il y a quand même des choses qui me gênent un petit peu, même si je pense que ce ne soit pas le contenu du film, tel que parfois ça a été analysé, comme la France malade et le maréchal à son chevet. Je pense que ce n'est pas du tout le sujet du film.
Bon, attendez, commençons par la fin du monde, puisque vous avez dit que c'est Artaud qui devait jouer Novalik. Je suis convaincue qu'on voit Artaud dans le film. Il ne faut pas oublier que les films étaient tournés en 29, Napoléon était tourné en 25-26, donc Gans et Artaud se connaissaient très très bien. Mais je ne crois pas que Gans voulait donner à Novalik, donner à Artaud le rôle de Novalik, parce qu'il se l'est gardé pour lui. Ses côtés visionnaires, un peu martyrs, ça lui allait comme un gant, il n'était pas question de le donner à quiconque. Bon, ça, c'est mon impression personnelle, car dans ses notes, dans ses carnets intimes, tout ça, l'idée, même le nom de Novalik, vous commencez à le trouver déjà dans ses carnets en 1919, quand il avait fait, bon, il avait des projets de films qui s'appelaient Les Cicatrices, en plus un autre film qui s'appelait Ex Homo, qu'il a arrêté de tourner. Je crois qu'il avait demandé à Cher Stevens de jouer le rôle principal, et il paraît que Cher Stevens jouait comme un cochon et qu'il a dû interrompre les films tellement c'était pas possible. Enfin, c'est tout ce que, en tout cas, c'est lui qui me l'avait raconté à l'époque. Ça, c'est pour en finir avec La fin du monde, qui est un film qui lui désavouait parce qu'effectivement, il avait été un peu dépossédé de ses films. En 1929, c'était une époque très critique de sa vie aussi. Il avait donné une charge psychique et d'énergie absolument énorme d'un Napoléon, et quelque part, même si c'est un film qui aujourd'hui est mythique, les résultats à l'époque n'étaient pas à la hauteur de l'effort qui avait été donné. Donc je pense qu'il s'est trouvé un peu vidé il avait une corde dans son violon que s'était un peu brisée. Dans une de ses notes, il dit « Pourquoi je passe ?» C'est une note qu'il avait écrite à Saint-Moritz en 1928. « Pourquoi je passe mon temps à me regarder moi-même quand j'ai chez moi la puissance de Perrault, de Dante, enfin, de Shakespeare ?» Bon, il n'était pas modeste, mais je trouve qu'il avait raison, parce qu'il avait tout ça en lui, peut-être un peu moins contrôlé, peut-être un peu moins maîtrisé, mais c'était absolument le paroxysme du génie dans toute sa splendeur. Ça, c'est pour La fin du monde. En ce qui concerne La Vénus aveugle, de toute manière, on ne peut pas dire que j'ai une tendresse poussée pour le maréchal, donc j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Cela étant, il faut toujours essayer de comprendre. Il avait toujours été très très évasif chaque fois que j'avais posé la question, donc je ne suis jamais arrivée à avoir une réponse nette. Et par contre, j'ai vu des lettres de l'époque, dont l'une signée de M. Bloquin, qui par la suite était un metteur en scène, ou à l'époque était un metteur en scène aussi, qui s'occupait quand même des affaires cinématographiques dans la France occupée, et que lui disait qu'il était maintenant très content de voir que, comme il avait pu démontrer par tous ses certificats de baptême qu'il n'était pas juif, donc à partir de là, s'il voulait continuer à travailler, patati patata. Bon, je pense que Gans, qui se croyait plus futé que les politiciens, en quoi il avait tort, parce qu'un créateur est toujours en état d'infériorité par rapport à les politiciens qui n'ont jamais des motivations très très propres, s'était dit, si j'ai fait une petite dédicace comme ça, je n'aurais pas de problème. Bon, je crois qu'il s'est trompé, les faits sont là, il a dédié ça à Pétain. Contrairement à vous, je ne pense pas que La Vénus aveugle soit son meilleur film ou un de ses films les plus éblouissants, mais enfin, des goûts et des couleurs, même si c'était en noir et blanc, c'est autre chose. Pourquoi il l'a fait, je n'en sais rien. Je pense que c'était une stupidité.
Oui, cela dit, il y a quand même une... Est-ce que d'abord, bon, c'est vrai que pour la génération des gens de 14-18, moi je pense par exemple à quelqu'un comme Giono, ce qu'on a appelé même les pacifistes intégraux, enfin, les gens comme ça, ils ont cru à un moment donné, parce que c'est vrai que Pétain c'était aussi Verdun, donc ils ont cru que ça pouvait être le sauveur. Il y a un petit peu ça. Il y a en plus chez Gans, c'est vrai, quelque chose qui fait qu'il va... Alors ça, est-ce que c'est pas à mettre en relation avec même Nietzsche, le sauveur, le père, bon, moi je sais pas, c'est un peu compliqué, mais il s'intéresse quand même, je dirais, toujours à rencontrer des hommes d'État, bien que moi je pense que Gans ne soit pas un politique, c'est quelqu'un qui est parfaitement naïf, et j'ai l'impression que c'est le grand chaos dans sa tête, mais il rencontre quand même, bon, le pape, il va voir Franco, pour faire son manolette, et ensuite il décide de faire Mao. Et donc il avait même rencontré, je crois, ou commencé des pourparlers avec Mao Tse-Tung. Donc il y a quand même pas une obsession, mais quelque part l'idée que, en fin de compte, il faut rencontrer peut-être les grands hommes pour être. Alors là, il y a un questionnement.
Bon, attendez, rétablissons encore la vérité historique, s'il est une vérité. L'histoire Mao, c'est pas tout à fait comme ça. En 1964, Gans et moi avons été invités en Chine, et on ne comprenait pas pourquoi. Donc, comme on était curieux comme des chats, on nous invite à aller en Chine, on est allé en Chine. Là, on nous a promenés partout, on ne comprenait toujours pas pourquoi. Et puis, un beau jour, c'était l'anniversaire des Gans, c'était le 25 octobre 1964, les interprètes viennent nous retrouver la gueule enfarinée pour nous dire « Venez, venez, on a une surprise pour vous. » Et on nous amène dans un palais quelconque de la cité interdite et là, on trouve Chuan Lai. Alors, Chuan Lai qui parlait parfaitement le français parce que lui aussi avait été justement ouvrier, je crois, chez Renault. À l'époque, il était en exil. Chez Renault, qu'est-ce que c'était sinon? Ça pouvait être Citroën. Enfin, il était d'une usine automobile. Je voyais qu'il parlait très bien le français parce que quand on lui parlait en français, il demandait qu'on le traduise, mais vous voyez dans les regards ou dans les expressions quand quelqu'un sait parfaitement ce que vous êtes en train de lui dire. Il nous a demandé si on ne voulait pas faire un film sur la Longue Marche. Bon, Mao Tse-Tung, on l'a rencontré dans une fête officielle au milieu des 1000 personnes. D'ailleurs, je l'ai trouvé complètement gâteux. Je suis convaincue même que ce n'était pas lui, mais déjà un double ou un sosie ou un clone, parce que c'était quelque chose, une sorte de poupée cireuse, complètement inexpressive, qu'on tenait de chaque côté. Pour moi, on ne peut pas dire qu'on a conversé à Mao Tse-Tung, parce qu'on ne converse pas avec un gaga. Bon. Mais c'était les grands cultes, etc. Bon. Tout ça, qu'est-ce qui arrive? On rentre, c'est la révolution culturelle. Bon. À partir de là, le bordel total en Chine, et ce projet-là n'a jamais eu lieu. Mais ce n'est pas Gans qui est allé chercher Mao. Cela dit, il avait une grande faiblesse d'aller voir des hommes politiques, pensant que les hommes politiques allaient l'aider. Et il ne se rendait pas compte que les hommes politiques voulaient que Gans les aide plutôt. C'est-à-dire qu'il fallait plutôt tordre les idéologies pour voir si ça pouvait servir à ces hommes politiques-là. Et je pense qu'il était d'une grande naïveté.
Parce que c'est vrai que son cinéma mis au service d'un homme politique, ça peut, vu la conception qu'avait du cinéma Gans, galvaniser les foules, les clouer au fauteuil, etc. Il y a quelque part là-dedans, c'est idéal pour un homme politique, pour de l'idée de pouvoir fasciner la foule. Parce qu'il y a ça dans le cinéma de Gans, la conception du cinéma.
Mais c'est tellement vrai qu'en 1943, quand il a pu démontrer qu'il n'était pas circoncis, qu'il avait tous les droits pour être un bon petit aryen cinéaste en France, les services de propagande allemands sont venus le retrouver pour lui dire « Venez à Berlin faire un film à la gloire du Führer ». Et là, il a quand même compris, tout naïf qu'il était, que ça commençait à chauffer, il a foutu le camp en Espagne.
Toujours des contacts entre Gans et ses intellectuels des années 20, qui étaient ses amis, je pense à Sandra Ars, je pense à Céline, dont il était très ami. Est-ce que ces liens ont continué dans les années 50? Là, on a vu, par exemple, Philippe Soupeau et André Breton défendre Abel Gans dans les années 50, alors que Gans se retrouvait très isolé à l'époque.
Bon, Commençons par 1920. Effectivement, Blaise Cendrars était son assistant dans J'accuse et dans La Roue. Gans même avait demandé à Cendrars de lui écrire la préface des Prismes, auquel Cendrars avait refusé parce qu'il trouvait que Prismes n'était pas encore tout à fait au point. Il avait une grande amitié entre eux, il se voyait très très souvent. Artaud, je crois qu'il le voyait un peu moins, mais enfin, connaissant Artaud et ses grands paroxysmes, peut-être quelquefois ils n'étaient pas dans la même longueur d'onde, parce que leur paroxysme était un peu différent. Il était très ami de Maeterlinck, il était très ami de tout ce qui était là. Il était très ami de Robert Delaunay, qui était le peintre, à un point tel que c'est à Delaunay qu'il avait demandé de faire une maquette d'une de ses inventions, qui était les orgues des Lumières. Il existe une gouache de Delaunay faite pour Abel Gans dans les orgues. Qu'est-ce que c'était les orgues de Lumière? Lui voulait avoir une sorte d'orgue et à partir de touches qu'on faisait jouer, il y avait sur un écran des figures qui se formaient, ce qui est une idée très très jolie. Donc dans cette gouache de Delaunay, on voit un visage de femme très très beau, fait avec des petites ampoules électriques. Vous me parlez de Céline, je crois qu'ils se connaissaient très bien, qu'ils s'aimaient beaucoup. Je pense que malgré le fait qu'il avait dédié la Vénus aveugle au gâteau de Verdun, je pense qu'il n'a pas beaucoup apprécié la position antisémite de Céline et il a refusé de continuer à le voir. Comme quoi, vous voyez qu'il avait quand même des principes, même s'il était très très naïf. L'histoire sous Pau et Breton, je suis un peu coupable entre guillemets, car j'étais très très liée au surréaliste, et c'est par moi que Gans a connu Philippe sous Pau et André Breton. Donc, ça s'est passé, ça s'est passé qu'au fond, je vais vous dire, ça s'est passé un peu comme un jeu de billard, parce que c'est parce que je ne veux pas avoir l'air vaniteux, mais c'est parce que j'étais dans le Magirama que tout ça a eu lieu, parce qu'on ne peut pas dire que c'était des attentes tellement crochues. Il s'est respecté, mais il y a dans les surréalismes une dérision qui m'est très chère et une sorte de révolte contre tous les préjugés qui n'est pas tout à fait gancien. Enfin, Gans peut avoir des sentiments très conventionnels.
Elle vous disiez, mais il y a quelque chose qui me frappe dans l'ensemble de l'œuvre de Gans, c'est la charge érotique très forte de son œuvre, qui est quasi unique, je crois, dans le cinéma français.
Alors, quand je disais conventionnel, c'est qu'il avait quand même un côté très très classique des rapports qui peut. Un côté presque patriarcal. Enfin, si vous analysez bien ses films, quelque part, il y a même une misogynie latente, parce que la femme est la source de tous les malheurs. Écoutez, La Roue, qui est un film qui pour moi c'est peut-être un de ses plus beaux films, parce que Napoléon est plus parfait techniquement, mais La Roue, c'est du jus de mythe à l'état pur. Bon. Mais à la limite, quand vous commencez à l'analyser en dehors de la côté splendide des images, de la construction tragique, édipienne, etc., la fille, c'est la source de tous les malheurs. Il y a la limite. Qu'est-ce qui arrive quand les vieux, c'est vraiment mère, c'est son fils, vont à la montagne? Pour moi, c'est un rapport complètement homosexuel. Entre les deux, ils s'embrassent en disant « il faut l'oublier, il faut l'oublier, il faut l'oublier ». Bon, je regarde ça, les yeux écarquillés, avec une sorte de sourire attendri, mais disant « il ne savait pas, pardonnez-lui Seigneur, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire bon. ». C'est l'état. On ne peut pas me soupçonner de ne pas être une groupie délirante et parasitique des Gans, dont je me crois aussi le droit de voir où il pouvait avoir, je ne dirais pas des faiblesses, mais des choses qu'on se dit tiens, tiens, tonton Freud devrait analyser ça un peu plus. Il y a aussi chez lui les tabous de l'inceste. Dans tous ses films, il n'y a que ça. Enfin, donc, il adorait sa maman. Je crois que ce n'est pas impunément qu'on adore à ce point sa maman.
En 1956, je revins à ma vieille idée de la polyvision et je préparais avec des moyens extrêmement réduits mon programme expérimental Magirama. La polyvision est une nouvelle conception d'expression cinématographique qui doit opérer un véritable bouleversement de notre façon de voir et de nous exprimer en images, et par conséquent d'influencer les spectateurs. Tandis que sur l'image centrale se déroule l'action, les deux autres images du triptyque soutiennent et commentent cette action exactement comme en musique, le contrepoint soutient et commente la ligne mélodique. Le Magirama fut présenté dans une des plus petites salles de Paris. Le programme était composé de plusieurs courts-métrages et d'une version polyvisée de mon J'accuse de 1938 auquel j'avais incorporé des séquences de panique de la fin du monde. Grand succès de critique et d'estime, mais ce fut encore une expérience sans lendemain.